Julien apprend l'arabe.
Je suis Sirakienne.
Tu ressembles à Scheherazade.
Des mots qui s'inscrivent dans nos os.
Des valises d'histoire qui s'évadent.
Je ne peux pas être sa fille.
Je veux un garçon.
C'était un soldat anglais.
Ses silences hurlent douce et obéissant.
J'ai fini par abandonner mon corps.
Il ne m'a pas,
il ne m'a pas tué. Tout à fait.
Un photographe de guerre.
Un photographe de guerre est un mercenaire.
Fin de l'histoire.
Des voix et des histoires anciennes de la nuit des temps qui de génération en génération se racontent ou se taisent comme autant de blessures ou de griffures. Istiklal est le nouveau spectacle de Tamara Al-Saadi, l'histoire de 5 générations de femmes entre l'Irak et la France. Bonjour Tamara Al-Saadi.
Bonjour Pascal.
Racontez l'histoire de ces femmes de mère en fille, de cette transmission de génération en génération sur une scène de théâtre, suppose pour vous de représenter l'ensemble de ces femmes et donc de faire parler les morts.
Oui, absolument. Une partie du spectacle traite donc de la question du transgénérationnel, de qu'est-ce que nos corps, nos inconscients perçoivent, connaissent des générations passées. Et j'ai voulu le raconter en matérialisant ces présences du passé à travers une lignée de générations de femmes sur 5 générations.
C'est la magie du théâtre que de faire réapparaître les morts.
La magie du théâtre, c'est de visibiliser l'invisible, oui.
Vous êtes dans cette lignée de femmes ?
Bien sûr que je suis dans cette lignée de femmes qui ne l'est pas.
Je ne le suis pas.
Bah, vous êtes d'une lignée de femmes aussi, hein, contrairement à ce que vous semblez vouloir vous faire croire. Oui, alors je ne sais pas si votre question cache une question sur la dimension autobiographique du spectacle.
En partie, oui.
Forcément, quand on écrit, il y a des choses, on met des choses qu'on connaît. Mon premier spectacle était frontalement autobiographique, là, c'est pas le cas. Mais évidemment, j'utilise aussi un matériel intime que je tresse avec la fiction, oui.
C'est en effet une histoire intime, très intime et très politique aussi, car dans le spectacle qui se déroule sur l'ensemble du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, on passe d'un Irak occupé, par le mandat britannique, enfin qui est sous mandat britannique, l'indépendance, la république, la dictature, les guerres et le chaos actuel, c'est-à-dire c'est un siècle d'histoire sur scène aussi.
Oui, alors disons que j'essaie de faire en sorte, en fait, le focus n'est pas sur la grande histoire, mais il est sur la traversée des femmes dans cette histoire. Alors il y a des marqueurs temporels parce que on parle de soldats anglais sur le territoire irakien, donc ça circonscrit au fait qu'on parle d'un moment donné du mandat britannique.
C'est-à-dire les années 20.
Les années 20. Et puis, bah, comme en fait on suit des générations en générations, on peut à peu près situer comment ça avance dans le temps. Mais le focus est quand même plus sur la trajectoire intime de ces femmes qui traversent ces sociétés qu'un aller-retour avec leurs contemporains. À part avec leur propre famille, on n'entend pas parler du reste. On entend plus parler de la société contemporaine actuelle française. Je contextualise, il y a plus de détails donnés sur le contexte de la génération présente que des générations passées.
Oui, parce que la cinquième femme de cette lignée vit en France. Elle s'appelle Leïla. On va raconter son histoire. Mais est-ce qu'elle est un peu vous, cette Leïla qui se sent à la fois française et étrangère ?
Oui, elle est un peu moi. Alors, elle est née à Paris, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis née à Bagdad. Elle ne parle pas l'arabe, alors que moi, c'était ma langue maternelle. Mais en fait, on se pose malgré tout les mêmes questions, Leïla et moi. Donc oui, on a des expériences communes qui sont clairsemées dans le spectacle.
Mais comment vous vivez, Tamara El-Saadi, comme une exilée, une étrangère, comme une accueillie, comme une arrachée, comme une Française irakienne entre les deux ? C'est une question peut-être un peu compliquée et trop intime, mais c'est le spectacle qui pousse à cette question, alors, je trouve.
C'est intéressant. Comment je peux vous répondre de la façon la plus honnête possible ? Alors, d'abord, je dirais que je pense que votre question aussi relève de la question de ce grand mot qu'on appelle l'identité, qui est pour moi un mot extrêmement figé, parce que pour moi, l'identité, en fait, n'est pas quelque chose qui est figé, c'est un mouvement. Et c'est un mouvement, et c'est quelque chose d'extrêmement situé. En France, je suis une femme d'origine irakienne. En Irak, je suis française. Chez ma mère, je suis sa fille. Auprès de mon compagnon, je suis sa femme. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué de me présenter à cette orée-là. Mais je peux dire que moi, là, tout de suite, comment je me perçois, si je dois simplifier, je ne sais pas, ou donner un aspect de cette identité-là, je suis française d'origine irakienne et je pense que je fais la France autant qu'elle me fait.
Refusant les assignations, donc.
Totalement.
Et un peu indépendante. je vous tends une perche, là.
Donc, Estirlal, ça veut dire indépendance en arabe, tout le titre du spectacle. Oui. Alors, c'est... En fait, je suis obligée de vous parler de mon premier projet, Place, qui questionnait les mécanismes d'assimilation et qui a mené à ce projet. Qui, en fait, questionne un endroit d'intersectionnalité parce que la part du féminin est aussi prise en charge dans ce spectacle. Elle était moins dans le spectacle précédent. Quand on est une femme racisée, enfant, en tout cas quand on est petite, en France, dans le système scolaire, toutes les institutions nous appellent à l'assimilation. C'est un concept pour moi que j'oppose à l'intégration, parce que l'assimilation pour moi c'est une forme de colonisation culturelle de l'intime. C'est une culture qui en interdit une autre dans soi et qui se veut hégémonique, alors que l'intégration c'est une rencontre d'un groupe qui a une culture, qui dit voilà, nous on a ça, toi t'as ça, viens on s'apprend des choses. Et moi je n'ai pas été intégrée en France, j'ai été assimilée. Et ça a provoqué des dégâts de perception, des syndromes d'imposture. J'ai été complice d'un phénomène de meurtrissure de mon arabité, parce qu'on m'a fait comprendre très vite que c'était quelque chose de honteux et qu'il fallait que je gomme ça si je voulais appartenir à la République. Et en fait, se construire sur cette erreur crée des dégâts. Et du coup, c'est de ça dont je parle dans Place. Et dans Estirlal, en fait, c'est un... Dans Place, c'est une jeune femme de... On suit un enfant jusqu'à le fait qu'elle est jeune adulte. Là, c'est une perception plus de femme. Quand j'ai écrit cette pièce, j'étais plus âgée. Et je me suis rendu compte que la question de la féminité était tout aussi névralgique dans mon rapport au monde. Et que donc, de fait, le fait de cumuler deux minorités détermine mon rapport au monde autant que le monde me détermine à travers ce filtre-là. Et que du coup, dans Estirlal, j'ai voulu montrer ce double filtre.
Estirlal, qui veut donc dire indépendance, vous l'avez signalé. Tamara Al-Saadi, vous allez nous raconter la vie de Leïla, Malmé, Aziza et Jamila, mais je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter le premier titre de Civilisation, c'est le nouvel album de Reslan, conçu dans le plus grand secret et dont la date de sortie est prévue demain. Mais en avant-première, il a mis en ligne hier son clip, le premier, et à l'heure qu'il est 24 heures après cette publication, c'est 50 000 albums prévendus et plus de 2,5 millions de vues sur YouTube.
La nostalgie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on n'a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes. Allumer l'incendie tout enflammé. L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence.
mais d'adolescence. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réact, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, poule, renard, vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols, comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien avant jamais, nombreux radicalistes. En manque d'empire, ils se perdent dans la nostalgie d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les 2/3 de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs? Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache, c'est pas gérer nos relations. Donc on les gâche, assume parce qu'on est, donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
Très en colère et très politique, Aurel San, avec cette odeur de l'essence, seul titre dévoilé à 7h, en attendant la sortie de l'album demain, et c'est dans De Vive Voix, évidemment, sur RFI. Autrice, metteuse en scène, Tamara El-Saadi est aujourd'hui notre invitée pour son spectacle Istiklal, qui raconte des générations de femmes aux lèvres cousues, c'est votre expression. L'idée donc est de briser le silence et de lever les tabous. C'est ce qu'elles essayent de faire les unes et les autres de génération en génération, mais c'est ce que vous aussi essayez de faire en tant qu'autrice.
Alors, dans l'histoire, elles n'essaient pas de le faire. C'est les fantômes qu'elles sont, donc c'est après leur mort. Je me dis que ce moment de mort, j'espère que c'est un moment où on atteint la sagesse, je ne sais pas. En tout cas, j'ai un peu sublimé ces fantômes qui, en fait, viennent pénétrer la vie de Layla. Comme pour appeler à réparation, parce que elle a le moyen de, a les moyens de peut-être réparer, alors qu'elle n'avait pas ces moyens-là. Donc, leurs histoires sont dévoilées au cours de la pièce, et du coup, on découvre quelles sont les histoires qui ont précédé Layla et comment ces histoires, en fait, finalement, impactent son rapport au monde, alors qu'elle ne les connaît pas.
Mais ces femmes s'invitent dans son esprit, dans son intériorité, ou c'est Layla qui les invite à venir vers elle?
C'est une bonne question. Il faut leur demander. Moi, je pense que c'est elle. Enfin, je pense que tout ça est lié. Enfin, elle est issue de ces histoires. Et moi, ce que j'ai voulu raconter, c'est comment ces fantômes En fait, c'était un peu amusant, c'était un peu autour de ce qu'on appelle le Mektoub. On dit, mais c'est quoi le Mektoub ? Alors, on parle souvent des énergies, des forces qui sont autour de nous, du destin. Bah, moi, j'ai donné à ça le visage de 5 fantômes. 4 fantômes même, pardon, 4 fantômes. Et du coup, j'ai un peu voulu... je me suis dit que c'était elle qui était venue agir la vie de Layla, comme à la fois l'emmener sur des sentiers où elle pouvait rencontrer des murs, en espérant que ces murs lui fassent comprendre ce qu'elle n'avait pas les moyens de comprendre de leur vivant.
Je n'arrive pas à avancer sans le début de mon histoire, dit Layla. Et le début de son histoire passe dans le spectacle, en tout cas, par la langue maternelle. Parce que l'on a refusé à Layla l'arabe. On lui a refusé d'apprendre l'arabe. Sa mère lui dit, c'est terrible, ça ne sert à rien.
Ben, c'est souvent le discours de générations de personnes qui ont justement vécu l'assimilation et qui ne l'ont pas forcément questionné. Et je ne leur jette pas la pierre, mais en fait, à un moment donné, le processus est atteint. Enfin, y a un rejet intégré total de nos origines au point où on apprend à nos enfants que ça ne sert à rien, que ce n'est pas pour eux. Enfin,
mais c'est une coupure terrible. Bah d'être oui. Privé de sa langue maternelle.
Oui, c'est une coupure terrible. Moi, perdre ma langue maternelle parce que je l'ai perdue. Enfin, aujourd'hui, j'ai le vocabulaire d'un enfant de 4 ans, ce qui est terrible, qui m'attriste profondément. C'est parce que on est pris dans des rouages qui nous accompagnent dans cette amnésie forcée. Et la figure de la maman de Layla lui dit... en fait, elle cherche à la protéger aussi d'un éventuel racisme qu'elle pourrait se prendre... Enfin, c'est une vue de l'esprit. Je veux dire, même si elle la coupe de tout, la réalité, c'est qu'elle a le visage qu'elle a. Donc, en fait, voilà. Mais en fait, elle essaie comme d'arracher d'elle ce qu'elle pense être répréhensible.
Layla va donc, dans la pièce, commencer à apprendre l'arabe, contre l'avis de sa mère, mais grâce à son amoureux Julien, qui est photographe de guerre, elle va donc apprendre sa langue en dehors de sa famille. Extrait de Isklal, dialogue entre Layla et sa mère.
Min emti tetsayari ma'a Allah. Depuis que tu t'es mise à apprendre l'arabe.
Hiya ahsan mubadara qatta ufadillah Julien.
Ouais, bah merci Julien.
Oui, choukran Julien.
C'est toi qui apprends une langue de terroriste et c'est moi qui me radicalise.
Ma fichi bidahé.
Le Libanais en plus. Quitte à apprendre, t'aurais pu au moins apprendre le dialecte irakien.
Maman, comment grand-mère est morte?
Parce qu'elle mangeait pas assez, voilà. Et arrête de me poser des questions improbables à des moments improbables.
Si je te l'ai posé à des moments probables, tu répondrais?
Où vont les histoires quand elles ne sont pas racontées et dans quelle langue les raconter? On entend dans cet extrait de Istiklal, votre spectacle, Tamara Al-Saadi, l'emboîtement et l'enchâssement des silences et des tabous, parce qu'il y a l'interdiction de parler la langue, mais il y a aussi l'interdiction de savoir ce qui est arrivé à la grand-mère.
Oui, alors tout à fait, je vais revenir à votre question, mais je voulais juste revenir sur un point que vous avez soulevé. Layla pense que c'est grâce à Julien qu'elle apprend l'arabe, mais au cours de la pièce, elle comprend très bien que ce n'est pas du tout grâce à Julien qu'elle apprend l'arabe.
C'est grâce à sa mère.
Que c'est grâce à sa mère, en fait, et à ce qu'elle connaît déjà de la langue maternelle, de l'Irak, de la culture, enfin bref. Mais à un moment donné, elle se fourvoie parce qu'à un moment donné, l'endroit de transmission a été coupé. Et que malgré tout, des choses ont quand même traversé les barrages. Qu'elle a toutes ces choses en elle qu'elle n'arrive pas, qu'elle ne sait plus quoi en faire. Et puis tout d'un coup, elle trouve en un garçon qui représente une figure en fait finalement néocoloniale, une validation de son arabité via en fait son exotisme. Bref. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que oui, en fait, ce qui se passe, c'est que donc la maman de Layla, Amal, refuse de lui transmettre. L'arabe, parce qu'on comprend au fur et à mesure de l'histoire qu'elle perçoit qu'il y a quelque chose de dangereux, enfin qu'elle a compris l'histoire, elle, de sa mère, pas dans le bon sens non plus, parce que sa mère ne lui a rien dit non plus, donc elle a compris le passé en accusant, en fait, sa culture d'origine et sa langue, sans s'en rendre compte qu'en fait, la réalité des violences qui ont été vécues sont en réalité le fruit d'un patriarcat systémique, du colonialisme. Donc elle a fait un mauvais raccourci, quoi. Et du coup, elle se base sur ce raccourci pour élever sa fille, quoi. Et sa fille, elle sent qu'il y a une équation qui n'est pas juste dans cette affaire. Et en fait, c'est ça qu'elle dévoile. Et oui, il y a la question des silences. Du coup, je pense que dans toutes les familles des gens, des parents, des grands-parents se sont tus. Et puis, il y a cette figure très romancée de la jeunesse qui veut savoir, qui doit savoir, qui a le droit de savoir, qui est présentée dans beaucoup de films, de romans, etc. Puis en fait, moi, je me suis dit, mais en fait, en quoi notre droit à savoir serait plus légitime que le droit de Jean à se taire ? Si des gens se sont construits sur ce silence, en quoi moi, du haut de ma vie qui est abondante et en paix, parce que j'ai des vapeurs existentielles, je vais aller brutaliser ma grand-mère pour qu'elle me parle de quand elle était violée, quand elle était petite. Enfin, il y a quelque chose qui est indécent là-dedans.
Le spectacle, en tout cas, est en bilingue. Et je crois que c'est important de le signaler. Et les sous-titres ne sont pas simplement des sous-titres quand les dialogues sont en arabe, mais ce sont des textes qui sont calligraphiés, qui sont écrits en temps réel sur des grands voiles blancs qui servent en partie de décor. Je trouve que c'est assez beau de rendre palpable l'écrit sur une scène de théâtre, là où n'est que mot dit.
Bah parce qu'en fait, il y a un autre sujet qui est soulevé dans cette pièce, c'est la question de la place des mots et de la place des images. En fait, il y a une dialectique entre les images et les mots dans toute la pièce. Et du coup, parce que Julien aspire à être reporter de guerre, donc il y a toute une question sur la place du photographe dans les zones de conflit. Et puis, il y a la place de la langue, des mots, qu'est-ce que c'est les mots, et donc forcément l'écriture.
Et qu'est-ce que c'est que lire ? Qu'est-ce que c'est apprendre à lire et à écrire ?
Absolument.
Et c'est aussi un fil rouge entre les femmes dans ces générations, puisqu'on apprend au fur et à mesure que l'une d'entre elles, au moins, a été tuée pour avoir voulu apprendre à lire. Et oui. c'est le moment de la tragédie. Tragédie qui se répète d'une génération à l'autre, puisqu'il y a les mariages forcés, il y a les violences, et il y a aussi le viol initial, pratiquement.
Il respirait vite et fort. Je sentais sa poitrine souveraine de la mienne. Je n'arrivais plus à différencier la sensation de la terre dans mon dos, mon corps et le sien. La dissociation n'était plus possible. Nous ne faisions qu'un. L'occupation était totale. C'est sans doute pour cette raison qu'il ne m'a pas tuée tout à fait. Il t'a déposé à l'intérieur de moi. Mais j'espère que tu ne verras jamais le jour. Qui a dit que je devais t'aimer ?
La mama.
Le viol d'Aziza, seconde des femmes dans cette génération, sur ces cinq générations de femmes que vous nous racontez, Tamara El Saadi dans Istiklal, c'est vraiment un des moments les plus tragiques de la pièce. Et quand on parlait d'intimité et de politique, vous faites là le lien entre le viol et l'occupation. C'est dit explicitement. Vous avez travaillé sur quelle matière pour écrire ce spectacle ? Il y a eu les témoignages des membres de votre famille, quand vous avez eu des vapeurs existentielles, pour reprendre votre expression, où vous avez aussi travaillé comme chercheuse parce que vous êtes diplômée de sciences politiques et que vous n'êtes pas arrivée au théâtre immédiatement par le théâtre.
Oui, alors il y a... en fait, il y a mes fragments à moi qui n'ont jamais été complètement remplis. Enfin, j'ai comme des petits... J'ai des néants, en fait. Et donc, il y a ce que... Je sais rationnellement ce que je sais inconsciemment. Et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de rassembler toute ma connaissance rationnelle et émotionnelle de ces parcours féminins qui m'ont précédée. Et c'est ces connaissances-là qui m'ont permis d'écrire cette pièce. J'ai effectivement parlé à des femmes de ma famille, mais justement en évitant cet endroit de brutalisation, parce que je... Donc à un moment donné, il y a effectivement même un entretien de ma propre grand-mère qui en fait décrit sa robe de mariée et le fait qu'on lui a coupé les cheveux quand on l'a mariée, quand elle était très jeune. Et en fait, par ce biais par exemple de cet entretien qui semble juste... Elle décrit très précisément sa robe que d'ailleurs qui a été réalisée après par la costumière sur le spectacle. Elle décrit sa robe, donc en fait, l'événement semble anecdotique, mais moi du coup rentre dans ma dramaturgie de façon importante. Et puis, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec de nombreux reporters de guerre, et surtout des photojournalistes, mais beaucoup de reporters de guerre pour construire la figure de Julien. Donc voilà, c'était à la fois ces deux terrains d'investigation, personnel et impersonnel.
Et vous êtes, je crois, quand même une observatrice attentive de l'évolution de l'Irak aujourd'hui, puisque la pièce se referme par un long monologue. C'est une forme de diagnostic sur la situation actuelle du pays qui est faite par un fixeur, chauffeur, qui raccompagne Julien, donc le photographe de guerre, à l'aéroport.
Ah, l'Irak n'est plus l'Irak, monsieur Julien. Des gens sans âme et qui revendiquent des religions qu'ils n'ont jamais comprises, s'érigeant prophètes d'une rue, d'un quartier, d'une ville. Ces gens n'ont ni le visage de nos religions, ni celui de notre pays. La guerre et le désespoir ont accouché d'un chaos qui s'est substitué à toute possibilité d'aimer. Ces gens sont exsangues d'amour, monsieur Julien. La haine a conquis leur corps jusqu'à leur enfance. On nous a arraché la possibilité de rêver. Lorsqu'une civilisation ne peut plus rêver, elle implose.
Et pourtant, vous êtes toujours souriant, là.
Ah ben, on n'a pas beaucoup de droits ici, monsieur Julien. Mais grâce à Dieu, celui-là, on ne nous l'a jamais enlevé.
Que penser de cette morale de l'histoire, Tamara Al-Saadi ? Que faut-il retenir ? Le constat glaçant ou le sourire qui est toujours sur le visage de cet homme qui vit en Irak ?
Alors, ce n'est pas exactement la conclusion de l'histoire, c'est plutôt la dernière réponse qu'obtient Julien sur son propre rapport à son métier et à ses territoires qu'il objectivait et qu'il se rend compte que peut-être il passe à côté de certaines infos quand même. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Ben en fait, la fin de cette scène, c'est qu'il dit que Julien... en fait, il fait le lien, finalement, avec le fait que tout ça est le résultat d'une présence coloniale passée et que cette présence coloniale continue à être présente aujourd'hui.
Et opérante.
Et opérante. Et que, notamment, ce que Julien fait, c'est qu'il contribue à perpétrer ces rapports d'oppression sans s'en rendre compte, quoi. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Moi, je ne peux pas me permettre de m'exprimer au nom des Irakiens parce que moi, j'ai grandi à Paris, dans le 15e arrondissement, et que je n'aurais pas cette indécence. J'ai juste voulu traduire les choses que j'ai constatées aussi quand moi, je suis allée en Irak et ce qui m'a été confié. Et c'est vrai que l'endroit du sourire est un endroit fondamental encore.
Merci Tamara El-Saadi. Votre nouvelle pièce Istiklal est à voir au Théâtre des Quartiers d'Ivry jusqu'au 21 novembre. Et puis vous partez en tournée jusqu'à la fin du mois de mai avec des allers-retours entre les régions et la région parisienne. Merci beaucoup de vive voix Pascal Paradou à la présentation, programmation Cécile Lavolo, Jérémy Bessé à la réalisation. Et l'on se retrouve eh bien, la semaine prochaine puisque à partir de demain, c'est Littérature sans frontières à 7h sur RFI.